Mon nom est Michael Genner. Je suis président de l'organisation non gouvernementale Asyl in Not et je suis conseiller juridique pour des réfugiés.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Asyl in Not ici? Comment vous aidez les réfugiés?
Asyl in Not donne le conseil et représentation juridique dans le cadre des procédures d'asile. Nous sommes une petite organisation non gouvernementale, complètement indépendante de l'État autrichien, et nous nous considérons comme ONG de type nouveau, parce que nous ne sommes pas seulement une organisation caritative et humanitaire, mais une organisation politique. Nous combinons le secours juridique pour des individus avec la lutte politique contre un système injuste.
Qui sont les personnes qui viennent ici? Est-ce que c'est tous les jours? Qu'est-ce qu'elles viennent vous demander?
Ce sont des demandeurs d'asile. Ils viennent de l'Afghanistan, Irak, Iran, Turquie et d'autres pays. Quelquefois, ils viennent avec la première décision négative du PFA, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, c'est la première instance, l'Office pour l'asile, et ils veulent que nous écrivons un recours. Et ça, on fait. Quelquefois, ils viennent déjà avant le premier interrogatoire. C'est mieux parce que là, c'est possible que nous les préparons à ça. Et quand nous avons le temps, nous les accompagnons à cette soi-disant interview, ce qui est en réalité un interrogatoire. Nous connaissons les règles du jeu, nous connaissons les tricks des magistrats, des officiers, et nous sommes possibles de préparer l'interview, mais même ça, ce n'est pas toujours couronné avec succès, parce que malheureusement, la procédure d'asile est devenue un jeu de loterie. Ça dépend des fonctionnaires de l'office. Ça dépend de sa habitude à cet temps, de sa laune à ce moment-là.
Ça dépend de leur humeur.
De la rumeur, c'est ça. Mais quand même, nous sommes une organisation qui travaille avec succès. Chaque année, quand même, quelques centaines de procédures gagnées.
Et vous avez combien de dépôts de personnes qui viennent vous voir chaque année? Est-ce que c'est tous les jours?
1000, 2000 à peu près. Nous avons l'accueil ouvert chaque lundi de 9 à 15 heures. Là, ce sont toujours 50, 60 personnes. Et dans les autres jours, comme aujourd'hui, il y a des termines pour une préparation intensive, pour préparer, par exemple, une interview et pour discuter sur un recours qui est écrit. Chaque jour, la maison est pleine.
Depuis 6 mois, il y a un nouveau gouvernement en Autriche avec une étiquette droite-extrême droite. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et pour les droits des migrants?
C'était déjà très mauvais avant, mais quand même, une aggravation est toujours possible et ça arrive maintenant. Depuis le début de cette année, le nombre de décisions négatives et absurdement négatives augmente chaque jour. Les raisons que l'Office donne à ces décisions négatives sont absurdes, scandaleuses et cyniques. On peut lire dans les décisions que tous les Afghanais mentent.
Tous les Afghans mentent.
Tous les Afghans mentent, tout simplement comme ça. Et des choses comme ça. Il y a un grand nombre de fonctionnaires plus ou moins nouveaux, parce que c'est nouvellement employés, et beaucoup d'eux sont des flics primitifs qui utilisent la possibilité qu'il leur est donnée pour faire ce qu'ils veulent. Ils sont des racistes et ça on voit, ça on peut lire dans la décision. Et il semble qu'il existe un ordre informel, faites-le comme vous voulez, mais faites-le négatif. Mais à peu près, presque 50%, je crois 46% des décisions contre lesquelles on a été fait des recours, 46% sont annulés par la deuxième instance. C'est un grand nombre, ou bien ils reçoivent asile, ou un autre statut, ou bien la décision de la première instance est cancellée et la procédure renvoyée au début. Ça, cela montre que le tribunal, les cours indépendantes en deuxième instance considèrent vraiment le travail de la première instance comme vraiment scandaleux. Mais il continue quand même. Mais aussi dans la deuxième instance, c'est aussi notre travail de préparer les gens à l'intérieur de la deuxième instance et les accompagner. Aussi là, c'est un jeu d'hasard. Par exemple, les réfugiés de l'Afghanistan. Jusqu'en 2016, à peu près, il y a des années, c'était clair que des demandeurs d'asile afghans reçoivent au moins protection subsidiaire. Puis, le gouvernement a installé un nouvel soi-disant expert, M. Maringer, qui écrit dans son soi-disant expertise que l'Afghanistan est complètement sûr, qu'il y a un jeune homme qui est sain, capable de travailler, peut trouver un job à Kaboul, et oui, bien sûr, il y a des attentats explosifs, mais ils sont seulement dirigés contre les troupes étrangères et l'institution, et en tant que simple citoyen, il suffit de faire un détour pour ne pas être tué. C'est complètement cynique. Il existe d'autres expertises qui sont beaucoup mieux, mais c'est toujours un jeu de ping-pong entre nous et le cours pour montrer que l'Afghanistan n'est pas un pays sûr. Aussi, nous représentons de plus en plus de demandeurs d'asile kurdes de la Turquie et eux, ils n'ont presque aucune chance dans ce système d'asile. Je lui ai combattu pas mal de décisions de la première instance où il est écrit « Oui bien, vous êtes persécuté en Turquie, vous avez nous montré votre condamnation à 6 années de prison parce que vous êtes l'adversaire du régime et vous êtes un sympathisant du PKK, du Parti ouvrier. » Et ça, c'est une organisation terroriste. C'est pour cela c'est exclu de vous donner l'asile. Une meilleure possibilité, c'est qu'ils reçoivent une soi-disant duldung, un statut toléré. Avec ça, ils ne peuvent rien faire là. Mais contre ça, on lutte. Mais j'ai même combattu une décision pour un Kurde turc qui n'était pas dans le PKK, mais en Syrie, un des combattants des forces kurdes en Syrie qui ont lutté là contre l'État islamique, qui ont défendu aussi nos valeurs européennes contre l'islamisme. Et même pour lui, c'était écrit dans la décision, il ne recevra pas l'asile politique, mais seulement un statut toléré, parce que on sait bien que le PID, les forces kurdes en Syrie, ne sont pas sur la liste des organisations terroristes européennes, mais le gouvernement turc les considère comme terroristes, et c'est pour cela qu'on ne leur donne pas l'asile. C'est scandaleux et on lutte contre ça.
Vous dites que depuis le début de l'année, depuis 6 mois, votre travail, il est beaucoup plus compliqué face à une administration autrichienne qui ne veut plus reconnaître autant de demandeurs d'asile.
Oui, c'est devenu encore, c'était déjà compliqué, mais c'est devenu encore beaucoup plus compliqué et ça deviendra encore pire parce que jusqu'alors, il y a quand même, selon les règles de l'Union européenne, deux organismes payés par l'État pour donner un conseil juridique pour le demandeur d'asile. Nous ne sommes pas dedans, mais il y a deux. Il y a la diaconie évangélique et la Volkshilfe, Secours populaire socialiste, qui font un bon travail. Et un autre organisme payé par l'État, qui est une organisation de flics infiltrés. Chacun a demandé l'asile et contribué à un de ces deux organismes, le principe d'hasard. Ça veut dire que la moitié est déjà perdu. Mais eux, ils ont la possibilité de venir chez nous. Mais maintenant, avec fin 2019, l'État veut canceller les contrats avec Diakonie et Secours Populaire. Ils vont perdre toute leur place de travail. Et leurs clients, les demandeurs d'asile, vont venir chez nous. Mais ce n'est pas possible, nous n'avons pas la capacité. Nous sommes une très petite organisation. Cela veut dire que pas mal de demandeurs d'asile ne vont pas avoir un conseil suffisant.
Ça veut dire que l'État va couper les subventions aux deux organisations officielles habituées à aider les demandeurs d'asile et que vous allez vous retrouver complètement débordé.
Oui, exactement. Nous n'avons pas de contrat avec l'État. On ne peut rien perdre parce que nous n'avons rien. Nous sommes complètement indépendantes. Nous survivons seulement par le secours populaire. Ça veut dire des gens de la population qui votent avec l'élection. Ils paient pour un autre travail. Et comme ça, on a jusque-là survécu. Mais ça devient de plus en plus difficile.
Vous êtes inquiet sur l'avenir de la politique en matière de migrants aujourd'hui en Autriche?
Oui, naturellement. C'est possible qu'un jour, le gouvernement va aussi faire des lois anti-ONG, comme Orban en Hongrie, qui est le grand idole pour des gens comme monsieur, comme il s'appelle, monsieur Kurz en Autriche et d'autres. Oui, on a survécu pas mal de provocations, on va aussi survivre ça, on va lutter. Nous sommes une organisation politique et nous sommes fiers de ça et on va lutter.
Aujourd'hui en Europe, M. Kurz, il a pris la tête de ce qu'on appelle une fronde anti-migrants. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes désespéré de vous dire que votre leader politique, aujourd'hui, il va contre la solidarité européenne?
Enfin, ce que Kurz, Orban, Seehofer et d'autres veulent, c'est une forteresse Europe. C'est déjà depuis longtemps leur stratégie. Et il faut savoir que cet slogan forteresse Europe était un des slogans propagande des nazis, de Goebbels et Hitler. Eux, ils voulaient créer une forteresse Europe et Kurz, Seehofer et d'autres le veulent aussi. Et ça, on l'a toujours dit, c'est une continuité stratégique de certaines forces européennes. On lutte contre ça et je crois toujours à l'autre Europe, l'Europe du progrès, de la démocratie sociale. C'est naturellement pas clair qui va gagner, mais ceux qui luttent peuvent perdre, ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu.
À partir du 1er juillet, à partir de dimanche, l'Autriche, elle va prendre la tête de la présidence tournante de l'Union européenne. Quand on connaît les positions du gouvernement autrichien, est-ce que vous êtes inquiet pour la politique migratoire européenne? Est-ce que vous pensez que M. Kurz, il va essayer d'influencer la politique européenne?
Oui, Kurz essaie de se faire maître stratège d'une politique de forteresse Europe et d'une lutte même militaire contre des réfugiés et contre des migrants. on ne sait pas encore les conséquences pratiques. Je sais qu'il s'est planifié pas mal de rencontres des ministres européens de différents chantiers ici à Vienne. Et je sais qu'on va avoir un automne chaud, ça c'est là, à Vienne.
Parce qu'il y a cette réunion à Salzbourg avec les pays anti-migrants.
Oui, à Vienne, c'est planifié une conférence des ministres de l'Intérieur, je crois qu'en septembre, on se prépare. Pas seulement nous, mais il y a des alliances, des organisations non gouvernementales qui vont faire quelque chose.
Est-ce que vous pensez que dans cette idée de deux Europes, donc l'Europe du progrès et puis l'Europe forteresse, l'Autriche, elle peut un jour penser à fermer ses frontières ?
Mais ils veulent, naturellement, en Kurz et d'autres veulent fermer les frontières en général. Mais ça ne va pas marcher. Jamais dans l'histoire des mouvements de migration ont été pour toujours brisés par des murs ou par les militaires. L'Empire romain a existé pendant un certain temps, mais quand même, il est déchoué dans le mouvement de migration populaire. Et aussi, cette forteresse Europe d'aujourd'hui ne va pas avoir un succès permanent.